reste encore 2 petites minutes. Thérèse, t'ai-je dit bonjour? Donc je te dis bonjour. Merci à tous ceux qui me disent que le son est bon. J'ai envoyé un petit message à Rachel pour lui dire de monter le volume ou de redémarrer la page. Ça arrive à l'occasion comme ça. Bonjour Suze. Alors bien content Rachel que tu nous entendes. Surtout qu'habituellement tu n'es pas la seule à nous écouter. Tu es connecté avec d'autres. Donc qui est avec toi ce matin? Habituellement, il y a la sœur Mona, la sœur Auxilia, la sœur Chantal. Donc, avec qui es-tu ce matin et tu leur transmets, ben, elles entendent nos salutations, mais tu leur transmets nos salutations. Bon enseignement hier soir avec le pasteur André lors du cours biblique sur la question des conflits dans l'Église et des conflits parfois entre serviteurs de Dieu. Donc des exemples à tirer de l'Église primitive. Si vous n'avez pas pu écouter l'enseignement, c'est toujours disponible sur la page Facebook et la page Internet de l'Église. Vous pouvez y avoir accès en faisant les petites recherches habituelles, mais c'est disponible sur les deux plateformes, assurément. Dieu te bénisse, Ramon. Bonjour à Evelyne aussi. Bonjour Marie-Huguette. Bonjour Didier. Alors, on va bientôt commencer. On a un peu de stock ce matin, comme on dit en québécois. Donc, on va essayer de passer à travers cela. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Alors, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette matinée qui débute, cette journée qui débute, et l'occasion, Seigneur, que nous avons encore une fois d'étudier et de partager ta parole. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es le grand pourvoyeur, et c'est toi qui nous donnes, Seigneur, cette occasion. D'enseignement, cette occasion d'édification, cette occasion d'introspection aussi par rapport à nos vies, notre comportement et par rapport, Seigneur, à notre attitude face à tes prescriptions et attentes par rapport à nous. Alors nous demandons, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres, Seigneur, notre compréhension à ta parole, que tu nous instruises et que cette parole, Seigneur, puisse trouver en nous une terre qui a été appropriée, adéquatement préparée pour recevoir cette semence, afin qu'une fois plantée dans nos cœurs et arrosée par l'onction de ton esprit, elle puisse croître et porter un fruit qui te sera agréable et qui t'honorera, Seigneur, jusque dans l'éternité. Alors bénis-nous, instruis-nous, garde-nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on continue notre étude, toujours sur la question du rachat dans le jubilé. Donc, cette clause qui faisait en sorte que lorsque quelqu'un s'appauvrissait, il pouvait néanmoins, par ses efforts ou par l'aide, l'assistance de ses proches et de l'ensemble du peuple, pouvait malgré tout réintégrer son lepin de terre ou voir ce lepin de terre lui être rétrocédé. Que ce soit à terme bref ou que ce soit sur une plus longue portée qui irait maximalement jusqu'à 50 ans lors de l'année du jubilé. Et ce qui est intéressant, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les enseignements de la semaine ne sont pas nécessairement une copie conforme de ce qu'on a vu le dimanche. On peut développer et voir même certains aspects dans lesquels le Seigneur nous amène qui sont totalement différents que l'avenue qu'on avait prise le dimanche. Si vous vous rappelez, ce dimanche, on parlait donc, oui, de cette partie du verset qui dit « Si ton frère devient pauvre », mais pour ceux qui n'ont peut-être pas été attentifs aux versets qui ont été utilisés, il y a une gradation dans la pauvreté. Tout d'abord, c'est la personne qui devient pauvre et comme on va l'étudier ce matin, qui doit vendre une partie de sa possession. Après ça, si la personne devient pauvre et qu'elle doit tendre sa main ou fléchir sa main face à son frère. Troisième étape, c'est si quelqu'un devient pauvre et il doit se vendre à son frère. Et l'ultime étape de pauvreté, si quelqu'un est pauvre et qu'il doit se vendre à un étranger qui est devenu riche en territoire israélite. Donc c'est une gradation et dans cette gradation, il y a aussi une gradation de réponse à apporter. Donc si vous êtes avec nous tout au long de cette semaine, vous allez voir effectivement comment on vient en aide dépendamment de l'endroit où se trouve un frère dans une difficulté ou autre. Donc je lis pour vous Lévitique au chapitre 25, les versets 25 à 28. Lévitique 25, 25 à 28 nous dit, Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra, rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Donc que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Je reprends le verset 25 qui est le début de notre étude de ce matin. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc la première partie, si ton frère devient pauvre, vend une portion de sa propriété. Le terme « pauvre » qui va revenir tout au long de ce chapitre, c'est le terme « mouk »,« mouk », donc « m-u-w-k »,« m-u-w-k », qui veut dire « être bas », qui veut dire « devenir pauvre », qui veut dire « être oppressé »,« être déprimé », ou tout simplement « être pauvre ». Donc, il y a non seulement le processus d'appauvrissement, mais de surcroît aussi, ça peut être le constat d'une pauvreté. Mais au-delà de ça, il y a la notion via la pauvreté ou l'appauvrissement, la personne va descendre au niveau social, donc va être bas, ou va descendre au niveau de son moral et être déprimé. Le terme « vendre »,« makar »,« makar », M-A-K-A-R, M-A-K-A-R, qui veut dire vendre ou vendre comme une marchandise. Et là, ça va devenir plus important dans quelques jours lorsqu'on va étudier le frère qui se vend pour payer une dette. Donc, vendre comme une marchandise. Et possession qu'on a déjà étudié hier, Achuza, Achuza, A-C-H-U-Z-Z-A-H, je répète, A-C-H-U-Z-Z-A-H, qui parle d'une possession dont on est l'héritier. Donc, pas quelque chose qu'on a travaillé pour, mais quelque chose qu'on a hérité, qui nous a été donné, ou quelque chose qu'on vient à posséder parce qu'on nous a placé dans le but de posséder la chose. Et on disait hier que tout ce qu'on a vient du fait que le Seigneur nous positionne pour être ce qu'on est ou pour avoir ce qu'on a et pour faire ce qu'on fait. Alors, dans cette première notion, lorsqu'on parle si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, on parle du premier niveau d'appauvrissement selon ce passage. Dans les prochains jours, on va voir que la situation peut s'aggraver et à chacune de ces situations, Dieu avait une façon d'y remédier ou avait une façon d'y apporter un secours. Et c'est donc important pour nous de savoir que tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'est pas à la même phase, à la même étape, et que dans chaque étape, Dieu est tellement précis dans son aide à notre égard, dans son soutien, dans son secours à notre égard, que le secours par lui-même prend une forme différente d'une étape à l'autre. Dans cette première étape, c'est le fait de perdre une partie de notre héritage. Et ça va devenir important dans la suite de ce verset. On nous dit simplement que cet homme qui est face à une dette importante, qu'il ne peut pas rembourser par les voies normales, va vendre une partie de sa possession. Et parfois, effectivement, on arrive dans des situations, que ce soit au niveau financier, mais ça pourrait être dans d'autres domaines de notre vie, où on est obligé d'abandonner certaines parties de notre existence, assurément, puisque cet héritage-là est en fait la possession toujours de Dieu, mais dont nous sommes gérants, assurément, ça nous fait mal de prendre quelque chose que Dieu nous donne, que Dieu nous octroie, et de se voir obligé de le remettre à quelqu'un d'autre. Et dans cette situation, voici comment Dieu va répondre. Dans le verset 25, il va nous dire « Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Donc, si ton frère devient pauvre et qu'il vend une portion de sa propriété, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Venir, c'est le terme « bao », B-O-W. Quand on dit « le plus proche parent viendra », le terme « bao », qui veut dire « amener à passer », »,« être dirigé » ou « être tiré vers un endroit ». Ça veut donc dire qu'il y avait une responsabilité pour le plus proche parent d'intervenir lorsque son parent était dans une situation précaire et qu'il devait vendre une partie de son héritage. Pourquoi le plus proche parent? Je pense qu'il y a une question d'intimité et de discrétion là-dedans. Le plus proche parent sait en général ce que fait son frère, sa sœur ou son cousin. Il sait où il travaille. Et à un moment donné, il passe à côté de ce champ-là parce qu'habituellement, les familles restaient la plupart du temps dans un même territoire. Les terrains des frères et des sœurs étaient côte à côte régulièrement. Donc, à un moment donné, tu passes devant le champ de ton frère et tu vois que c'est pas ton frère qui y travaille. Ce ne sont plus les ouvriers de ton frère qui y travaillent, mais c'est quelqu'un d'autre. Et la chose qui est intéressante là, c'est que ce frère peut intervenir parce qu'il est proche. Il nous est très difficile d'intervenir lorsqu'on ne connaît pas la personne. Et voilà pourquoi dans la famille chrétienne, dans la foi, il y a cette proximité qui est importante. Et je sais, pour des gens timides comme moi, pour des gens qui sont plus reclus sur eux-mêmes, comme je peux l'être, ça peut être une facette qui est un peu non naturelle chez nous, d'être aussi proche des gens, de ce qu'on puisse voir mes besoins et moi voir les besoins de mon frère ou de ma sœur. Mais c'est cette notion de famille. Il y a une liberté, il y a une souplesse, il y a une baisse de la discrétion lorsqu'on est dans le cercle reclus de nos très intimes. J'ai un ami très, très, très intime et assurément, lorsqu'on est ensemble, on peut parler d'à peu près n'importe quoi et il y a peu de sujets qui sont tabous entre nous, tout simplement parce qu'on a cette proximité et je peux savoir lorsque je le vois aller, lorsque je le vois bouger, lorsque je le vois réagir, je peux savoir, voici cette personne, mon ami est en stress profond et assurément, il va me regarder, parfois même après une prédication, il va me dire, Florent, t'es sûr que tu te sentais bien parce que tu n'avais pas l'air tout à fait là? Est-ce que tu n'étais pas en train de passer par ci ou par ça, d'avoir un malaise ou autre? Parce qu'il me connaît de par notre proximité. Et ce qui est intéressant, c'est de la proximité, c'est que à ce moment-là, on n'est pas obligé d'ébruiter la chose. Regardez ce que le Seigneur va dire que ce proche parent doit faire. Il viendra et il achètera le champ. Donc, il n'a pas dit qu'il va aller parler à son frère ou à son proche. Il a dit, si tu vois que ton frère a été obligé de vendre le champ, toi, va le racheter. Ça veut donc dire que il va le faire en toute intimité. Pas la peine d'avoir une conversation de 2 heures à savoir qu'est-ce que tu as mal géré dans tes finances, qu'est-ce que nanana, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Non, dans la proximité de cette première étape de pauvreté, le frère va tout simplement aller dire non, je vais le secourir, je vais le dépanner, je vais le sortir de son trouble. Donc, il y a cette question d'intimité et de discrétion. Lorsque nous aidons nos frères, nous devons faire preuve de discrétion. Il y a des gens qui aident et qui aiment être connus comme ayant aidé. J'ai toujours ce petit malaise un peu par rapport à ceux qui font des actions de bienfaisance, mais qui se filment pour le passer sur les réseaux sociaux. Donc oui, il y a cette notion d'être un exemple pour d'autres et de susciter cette même action par d'autres qui pourraient avoir visionné la vidéo, mais de surcroît à cela, est-ce que c'est pas un peu en même temps se faire une publicité pour des actions bonnes que nous aurions pu exécuter? Ici, dans la notion du frère ou du proche aidant qui vient porter secours, il y a cette notion de je suis pas obligé d'en parler partout. Je ne suis pas obligé d'en faire la publicité. Et en fait, même, il pourrait arriver que le frère vienne payer pour le rachat et celui qui avait acquis la pièce ou le lopin de terre puisse retourner voir son ancien propriétaire et lui dire tout simplement, bon, t'as un proche aidant ou t'as un proche parent qui a acquitté ta dette, voici, tu peux reprendre ton terrain. Donc, il y a cette notion de discrétion qui est très importante dans l'assistance que nous offrons à d'autres. Un point où j'aimerais vous attirer votre attention. Quand on parle qu'il rachètera, le terme racheter, c'est le terme gaal, 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 qui veut dire à exécuter le droit de rachat ou avoir ce pouvoir de rédemption. J'aimerais maintenant vous amener sur le terme proche parent. Le terme parent, c'est en hébreu Gaal, Gaal, qui veut dire celui qui a le droit de rachat ou qui peut amener une rédemption. Le terme rachat et le terme parent étaient exactement le même terme. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ben, ça nous dit tout simplement que le proche parent fait ce qu'il doit faire. Dans son identité de proche parent, il a aussi cette identité d'aide de première ligne. Dans cette identité de proche parent, il a aussi ses capacités intrinsèques à son statut de proche parent d'être celui qui peut amener le rachat ou la rédemption. Donc, ce proche parent, lorsqu'il va faire cet acte de secours auprès de son frère, de sa sœur, de son proche parent, il fait tout simplement ce qui est normal de faire. L'assistance dans le peuple de Dieu devrait être tout simplement normale. Ça ne devrait pas être un don spirituel. Et je dis ça en sachant, malgré tout, que la Bible nous dit que certains ont des dons d'hospitalité. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de gens qui avaient le don d'hospitalité. Et dans ma tête, j'ai des noms de personnes qui ont effectivement ce don-là. ils se réjouissent, ils sont pleinement accomplis, ils sont pleinement épanouis, tout simplement dans cette action d'être capable de recevoir des gens auprès d'eux et de prendre soin d'accueillir, de faire manger, de permettre à des gens de se reposer chez eux. Il y a des gens qui ont ce don tout particulier d'hospitalité. Mais hormis ce don d'hospitalité, le secours fraternel devrait être une base normale dans la vie de la famille chrétienne. Celui qui était un proche parent, de par son statut, il était un Gale, donc il avait le droit et le pouvoir et le mandat d'exécuter le rachat et la rédemption de son frère. Alors apprenons à faire notre boulot. Apprenons à faire notre boulot, oui, avec discrétion, mais sachant que aider notre frère, secourir notre frère, c'est juste la plus normale des choses en tant que frère en la foi. On nous dit au verset 26, « Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, qu'il se procure lui-même de quoi et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. » Si un homme n'a personne qui ait droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. Se procurer, c'est le terme nasag, qu'on a déjà vu à quelques reprises, qui veut dire, mais je l'appelle pour vous tout d'abord, N-A-S-A-G, nasag, N-A-S-A-G, qui veut dire atteindre, qui veut dire se relever, qui veut dire reprendre contrôle, ou obtenir une chose. Et lui-même, c'est aussi un terme qu'on a déjà étudié. Celui qu'il se procure lui-même, lui-même, c'est le terme yad. Et en fait, le lui-même en français est peut-être un peu tronqué comme idée, surtout dans la langue contemporaine. Le terme lui-même est le terme hébreu yad, Y-A-D, qui parle de la main, qui parle de la force, de la puissance, de sa portion, de son héritage, et qui nous parle, et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'on l'a déjà étudié, qui nous parle de l'axe de la roue, donc ce qui permet à la roue d'être assemblée dans le char et de tourner adéquatement, ou du tenon dans une mortaise, cette petite particule de bois ou de métal qu'on rentre dans deux pièces de bois pour les associer l'une à l'autre un peu. Et je vous avais donné, vous vous rappellerez de cet exemple, un peu lorsqu'on va acheter des meubles dans ce magasin de meubles bleus et jaunes qui vient de Suède, et on a des petites pièces en bois ou en métal qu'on introduit dans une des pièces et qu'on introduit dans l'autre, et ça permet une jonction parfaite entre deux morceaux d'un même meuble. Et là, je suis sûr que ça vous ramène à la pensée comme quoi on a déjà étudié le terme yad. Ce qu'on dit ici, c'est que ce soit au moyen d'un parent ou que ce soit par ses propres moyens, le rachat a toujours comme objectif l'état de plein fonctionnement et l'état de solidité de notre frère. La main, cette idée de force, cette idée de puissance. Donc, on rétablit, on ramène, on reprend autorité sur notre situation, on se relève avec force de notre situation. Pourquoi? Pour être pleinement fonctionnel, l'idée de la roue qui tourne, l'idée de la roue qui fonctionne comme elle doit fonctionner, ou de surcroît à cela, ce tenon dans une mortaise, ce tenon qui permet à deux pièces d'être intimement liées l'une à l'autre et de ne pas pouvoir se séparer, donc qui permet de restructurer la chose. Rappelons-nous, on a dit ici, si ce frère vient à vendre une partie de sa propriété, donc il y a quelque chose qui était à lui, et il a dû se séparer d'une partie de cette chose-là qui est maintenant entre les mains de quelqu'un à qui originellement c'était pas pour lui. Donc il reprend l'ensemble de ce qui lui appartenait, il reprend l'ensemble du travail qui était sien. Ça veut donc dire que la restauration, dans laquelle nous, en tant que frères, nous pouvons collaborer, nous devrions et nous devons collaborer, mais aussi la restauration que quelqu'un peut aussi opérer par ses propres efforts, c'est toujours un objectif d'être de nouveau fonctionnel. Nous sommes des serviteurs pour Dieu. Donc, dans tout ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des serviteurs bons, qui fonctionnent bien, et des serviteurs fidèles qui fonctionnent sur le long terme. Lorsque nous restaurons un frère, lorsque nous aidons à la restauration d'un frère, nous aidons à ce qu'il puisse se remettre sur pied, reprendre ses outils, reprendre chacune des choses qui lui avaient été données par héritage par Dieu et qu'il puisse de nouveau fonctionner. J'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, mais je le répète, la doctrine du rachat, la doctrine de la grâce est incomplète si elle n'est pas associée avec une restauration totale dans les offices, dans le travail et dans la fonction. La discipline est une doctrine qui est incomplète, qui est bancale si elle n'est pas associée à un projet de restauration, de restitution et de reprise du travail de la part de celui qui aurait pu chuter. Alors, il est important pour nous de comprendre que l'objectif de Dieu, quelle que soit notre situation et quelle que soit la source d'aide qui va nous être octroyée ou par laquelle le Seigneur va pourvoir à notre secours, cet objectif principal est que nous puissions retourner à notre tâche, retourner à notre service pour être pleinement et dûment efficace. Le verset 27, il nous dit, d'abord au verset 26, que quelqu'un pourrait par lui-même, donc parce qu'il lui reste une partie du champ, et cette partie du champ qu'il a entre les mains, pour X raisons de travail mieux fait, de travail plus concentré, peut-être parce que c'est une saison qui est plus fertile, cette partie de travail donne davantage et permet de rembourser plus vite la dette qu'il avait. Il dit, donc, s'il comptera les années depuis la vente et restituera le surplus à son acquéreur et retournera dans sa propriété. Lorsque c'est la personne, où que ce soit, celui qui vient aider, qui vient rembourser, la règle qui s'appliquait, c'était toujours cette règle, combien il reste d'années d'ici le jubilé? Parce que la Bible, et on va le voir cette semaine, nous disait que c'était des saisons de culture, des saisons d'agriculture que nous achetions lorsque nous vendions une terre. C'était pas tout simplement une superficie, mais c'était qu'est-ce que cette superficie de terre agraire va pourvoir. Donc, pour le remboursement, la personne qui, pour des raisons de meilleure culture, était capable de rembourser plus vite sa dette, n'allait pas voir son créancier en lui disant « Ah ben tu vois, je te rembourse ce que je t'ai emprunté. » Non, c'était vraiment l'ensemble du montant qui devait être payé jusqu'au prochain jubilé qui était remboursé, que ce soit par celui qui était appauvri, qui est redevenu bien nanti, ou que ce soit par son proche parent. On ne profite pas du malheur d'un frère pour s'enrichir, et je l'ai dit dimanche. Voilà pourquoi la Bible va nous dire qu'on ne prête pas avec intérêt. Ça, c'est un principe. Mais de surcroît à ça, ou en contrepartie à cela, le rachat n'est pas non plus, ou la loi du rachat n'est pas là pour profiter de ceux qui offrent secours. On aurait pu dire, ah ben maintenant j'ai l'argent pour te rembourser ce que tu m'as prêté. Non, ce qu'il devait rembourser, c'était voilà ce qui était entendu jusqu'au prochain jubilé. Voici ce que je pourrais tirer comme profit de ce champ pour lequel je viens l'acquérir. Donc c'était ce pourcentage-là ou c'était ce retour-là qui était payable. Ça veut donc dire que lorsqu'on nous donne secours, il ne faut pas non plus profiter de ces personnes. Tout comme celui qui offre le secours ne peut pas profiter de celui qui s'appauvrit pour se faire de l'argent, En contrepartie, celui qui est devenu pauvre ne doit pas profiter du système pour s'enrichir et profiter de celui qui lui aurait fait grâce. Le verset 28 nous dit, et ça c'est un verset important aussi, « S'il ne trouve pas de quoi faire la restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. » Alors, c'est quoi qu'on dit ici? On dit, bon, quelqu'un devient pauvre. Il vend une partie de sa propriété. Deux options s'offrent à lui. Soit un proche parent va venir intervenir et va rembourser, va payer la dette et va libérer, ramener entre les mains de son frère ce qu'il a dû vendre pour question de pauvreté. Ou celui qui est devenu pauvre trouve un moyen de s'enrichir et peut rembourser et peut payer jusqu'au jubilé et récupère sa terre. Mais il dit, si il arrivait que ces deux options-là n'existent pas, dans le pire des cas, il y a encore une possibilité de restauration au moment du jubilé. Où la grâce de Dieu et la grâce des hommes s'unissent pour bénir celui qui s'était appauvri. Pourquoi je dis la grâce de Dieu et la grâce des hommes? Parce qu'il aurait pu arriver effectivement que quelqu'un dise « Je connais la grâce de Dieu, mais je refuse de l'appliquer. » Quelqu'un aurait pu dire « Je sais qu'on est proche de l'année du jubilé, mais je refuse d'appliquer la loi du jubilé et de rétrocéder la terre à celui qui me l'a vendu. » Ce faisant, il se serait mis le peuple de Dieu à dos, d'une part, et il se serait mis Dieu à dos, parce que le jubilé est propriété de Dieu, parce que le sabbat est propriété de Dieu, parce que le principe du rachat est principe divin. Alors pour nous, lorsque nous disons oui au rachat, lorsque nous disons oui au principe ou à la loi du rachat, ce que nous faisons, nous obtempérons, nous nous conformons délibérément au principe de grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je dis que c'est la grâce de Dieu et la grâce de l'homme qui se manifestent. Pourquoi est-ce important de dire que c'est la grâce de Dieu et la grâce de l'homme? Parce que Dieu utilise des hommes pour bénir autour de nous. Et trop souvent, on est ingrat. On ne devrait pas prendre l'assistance, le secours de ceux qui nous aident comme étant une chose acquise. On a beau dire, voilà ce que la Bible dit, quand tu donnes, tu ne dois pas prêter avec intérêt. Lorsque tu donnes de ta main droite, tu ne dois pas, ta main gauche ne devrait pas savoir ce que tu fais. Lorsque tu donnes et que le jubilé arrive ou que la septième année arrive, tu devrais laisser effacer la dette. Je n'ai pas à être égoïste, je n'ai pas à être avare, mais ça va des deux côtés. Tant sur celui qui donne devrait donner avec générosité, que celui qui reçoit l'aide devrait le faire avec énormément de reconnaissance. Au même titre où nous sommes reconnaissants envers Dieu, nous devrions aussi être reconnaissants envers les hommes et les femmes que Dieu utilise et qui acceptent d'être utilisés par Dieu pour bénir et restaurer leurs frères en difficulté. Oui, c'est une loi. Oui, c'est une loi que nous devons, en tant que membres du corps de Christ, appliquer. Oui, c'est une règle, la générosité et l'amour dans lequel nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Mais comme toute chose que nous faisons durant notre vie, c'est le fruit d'une décision. Alors, il est important que je remercie la décision d'obéir à Dieu que mon frère ou ma sœur peut manifester lorsqu'elle m'aide. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que l'aide que nous apportons devrait se faire de façon discrète, de façon intime. Pas avoir à se faire un nom sur le principe que nous donnons. Pas avoir à se faire une popularité de par notre générosité, mais de faire la chose tout simplement parce que c'est notre devoir et c'est notre nature de frère. Rappelons-nous le terme « gal », qui veut dire à la fois le droit de rachat et à la fois le proche parent. C'est dans notre nature, frère, sœur, c'est dans notre nature en tant que famille de Dieu d'assister nos frères et nos sœurs, et on devrait donc faire en sorte que cette nature opère tout à fait humblement, discrètement et naturellement chez nous. De surcroît à cela, on a vu aussi que le principe du rachat, c'est pour ramener quelqu'un à être efficace, ramener quelqu'un à être fonctionnel et à rassembler toutes les parties de son domaine ou toutes les parties de son existence. L'axe de la roue qui fait tourner et le tenon de la mortaise qui vient unir deux pièces de bois ensemble. Alors mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu dois aider quelqu'un, fais-le avec générosité, fais-le avec discrétion et travaille à la restauration de ton frère. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu reçois l'assistance d'un de tes frères, l'aide d'un de tes frères ou d'une de tes sœurs, reçois-la avec humilité, reçois-la avec joie, parce que c'est Dieu qui te bénit à travers ton frère et ta sœur, et reçois-la aussi avec gratitude. Et honore ton frère et ta sœur. Ne profite pas de la situation pour profiter de ton frère. Ne profite pas de la loi de Dieu pour profiter de ton frère. On se rappelle, le remboursement et devait être fait jusqu'au jubilé. Donc, faisons face à nos responsabilités avec grâce, avec circonspection, avec humilité, avec douceur et avec fidélité. Voilà ce que nous avions pour ce matin. Alors, prions pour terminer ce matin et après ça, on vous donne des petites annonces pour le restant de cette semaine. Seigneur, merci. Merci parce que tu viens calibrer les choses quant à comment nous offrons l'aide, pourquoi nous offrons l'aide, mais aussi, Seigneur, à comment nous recevons l'aide et comment nous devons réagir et témoigner notre gratitude. Alors, Seigneur, quand tu nous donnes l'occasion de bénir, qu'on puisse bénir avec générosité, avec libéralité, avec grâce, avec amour, mais surtout avec discrétion. Nous ne sommes pas là pour nous faire un nom, nous ne sommes pas là pour attirer les regards sur nous, ni même pour attirer par ricochet le regard sur la situation précaire d'un frère. Ta parole nous dit que si on donne de la main droite, que la main gauche ne sache pas ce qu'on a donné, alors Seigneur, qu'on soit aussi discret que ce principe. De surcroît à cela, Seigneur, si nous recevons l'aide d'un frère et d'une sœur, et je sais que pour plusieurs d'entre nous, ça peut être une notion qui est difficile, parce qu'on préfère se débrouiller tout seul, on préfère effectivement avoir cette occasion de cultiver le restant du terrain qu'on a encore entre les mains pour essayer de récupérer ce qu'on a dû vendre. Et Seigneur, merci pour les forces que tu nous donnes pour faire ainsi. Mais si tu prends un frère ou une sœur pour nous bénir, nous ne voulons pas, Seigneur, priver ce frère et cette sœur de l'occasion de te servir en nous bénissant. Et nous voulons, Seigneur, recevoir cette aide, cette assistance, avec toute l'humilité qui se doit, avec tout le respect qui se doit, avec aussi, Seigneur, toute la reconnaissance qui se doit. Alors je prie, Seigneur, que tu travailles, tant pour lorsque nous sommes donateurs, lorsque nous sommes les bienfaiteurs, que pour les occasions, Seigneur, où nous sommes les récipiendaires de la grâce, du rachat et de la bénédiction. Aide-nous, Seigneur, à maintenir ces liens serrés entre nous. Aide-nous, Seigneur, à nous connaître à un tel point qu'on sait reconnaître quand un frère ou une sœur passe par un temps difficile. Aide-nous aussi, Seigneur, à avoir cette intimité et cette affection et cet amour les uns envers les autres à un tel point où on ne se sent pas menacé de dire à notre frère ou à notre sœur, voilà ma difficulté, voilà ce par quoi je passe. Et qu'on ne soit pas non plus gêné d'aller voir quelqu'un puis lui dire, regarde, j'ai juste eu à cœur de te faire du bien. Alors reçois et que le Seigneur continue à te bénir. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce que tu fais, ce que tu continues à faire. Garde-nous aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, juste quelques salutations. Je remonte un peu. Je ne me rappelle pas si j'ai salué Marie-Huguette, mais je la resalue. Didier, Babette Andreas, Charlotte Farley Marie-André, la sœur Samek, bonjour Julie, qui d'autre? Denise de Laval. Je pense que... Oh, la sœur Rosanie, oui, je l'avais saluée. Myriam et Donald. Annie, bonjour. Andrés, Samantha, bonjour. Voilà, donc c'était ce qu'on avait pour ce matin. On vous rappelle que l'enseignement du pasteur André d'hier soir, très intéressant sur la résolution de conflits qui peut parfois survenir dans l'Église et même parfois entre serviteurs de Dieu. Donc c'était très intéressant, vous pouvez le voir toujours sur notre page Facebook ou sur la page Internet de l'Église. Et puis sinon, ben, on se retrouve demain pour un autre niveau d'appauvrissement. Aujourd'hui, c'était juste il perd une partie de son champ. Demain, c'est un peu plus que cela. Donc, on vous invite à être là demain. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas à vous faire du bien les uns les autres. N'hésitez pas à manifester l'amour et la grâce de Dieu les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.